Nous vous donnons rendez-vous aujourd'hui au Café Libre pour discuter des sujets brûlants du logiciel libre et des libertés informatiques. Aujourd'hui, avec moi autour de la table, dans Florence Chabanois, Vincent Calame et Pierre Bessac. Merci à vous trois de vous être joints à nous. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, sur le salon de causecommune.fm, bouton de chat. Toutes les références de l'émission seront rendues disponibles sur la page consacrée à l'émission, libreavoue.org/234. Florence, Vincent, Pierre, bonjour.
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 Alors, je vous propose de commencer par une actualité de l'April. Alors, je vais monopoliser un tout petit peu la parole pour remettre du contexte. Le sujet n'est pas simple. On pourrait bien sûr l'aborder si vous le souhaitez, sinon on avancera. Mais en tout cas, c'est l'actualité récente de l'April qui porte sur les logiciels de caisse sous licence libre. Donc, l'Assemblée nationale puis le Sénat ont définitivement adopté le projet de loi de finances pour 2025. Et l'article 3 de cette loi de finances supprime la faculté pour les éditeurs et intégrateurs de logiciels de caisse d'attester eux-mêmes de la conformité de leurs solutions à la loi. Alors, jusqu'à présent, ces éditeurs et intégrateurs de logiciels de caisse pouvaient, pour prouver la conformité de leurs solutions, soit la faire certifier par un tiers, soit en attester eux-mêmes en engageant leur propre responsabilité. Et les acteurs du logiciel libre s'appuyaient pour leur immense majorité sur ce modèle de l'attestation. Pour cause, la certification est une procédure lourde et onéreuse, très mal adaptée à la réalité des marchés informatiques, et en particulier pour les logiciels libres. Alors malheureusement, la certification va devenir obligatoire. L'objectif avancé était la lutte contre la fraude à la TVA. Bon, même si on peine à voir comment cette réforme va aider à cela, quoi qu'il en soit, c'est la loi qui a été adoptée. Donc ce n'est pas une bonne nouvelle, ce n'est pas fini pour autant. En effet, un décret d'application doit préciser les modalités d'application de la loi et il doit être publié pour que la nouvelle loi soit mise en œuvre. Puis il y aura des textes, notamment la doctrine fiscale qui doit être précisée, qui sera sans doute mise à jour, il y aura sans doute une instruction pour clarifier tout ça, tellement cette réforme peut avoir un impact important sur le marché des logiciels de caisse. Donc voilà, il s'agira à présent de se mobiliser auprès de l'administration fiscale pour contribuer à une réglementation aussi favorable que possible au logiciel de caisse. Voilà. Donc je ne sais pas si l'un ou l'une de vous souhaitait réagir sur ce dossier.
On avait parlé avant. Alors d'abord, ça fait un peu bizarre de penser qu'une loi de finances impacte le logiciel libre, hein, comme quoi il faut vraiment surveiller tout ce qui se passe au Parlement. Et ensuite, il y aura une autre chose à surveiller, c'est moins d'urgence, mais qui va concerner beaucoup plus d'entreprises, qui est la généralisation de la facture électronique et son obligation, quel que soit le niveau de l'entreprise. Donc ça, il faudra vérifier que ça aussi n'impacte pas, sous prétexte de certification, nos libertés d'utiliser le logiciel qu'on veut pour la compta.
Absolument, et je sais que ça a été, parce qu'on a une liste comptabilité, alors si les sujets vous intéressent, une liste publique, hein, je mettrai le lien en référence, où on peut discuter de ces sujets, et il y a pas mal d'acteurs, d'actrices du logiciel, on va dire, de caisse ou de facturation en général, qui y sont et qui parlent justement de ces questions de la facturation, et alors je vais pas me faire porte-parole, mais je sais qu'ils s'organisent entre elles et eux, parce qu'il y a une obligation de plateforme dématérialisée par laquelle il va falloir passer, et donc ils s'organisent pour essayer de proposer une plateforme qui soit basée sur du logiciel libre et qui soit une réponse communautaire. C'est aussi la force et la résilience du logiciel libre que d'être en mesure de s'organiser de cette manière-là.
Et moi, j'aurais une interrogation, c'est que souvent la loi sert à éviter des problèmes réels, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des cas d'attestation bidon faites par des éditeurs véreux, et dans le cas du logiciel libre, justement, le code étant libre, on peut le vérifier, donc le problème se pose, enfin, l'attestation semble quand même quelque chose de plus facile à établir et à vérifier par des tiers, donc je suis un peu étonné par la dureté du législateur en la matière. C'est pas la première fois, mais c'est un peu préoccupant.
Il y avait dans les amendements défendus et c'était assez transpartisan, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, c'était des arguments pour dire qu'il y avait effectivement des vendeurs peu scrupuleux, on va dire, de caisses qui attestaient, mais c'était qui permettaient de la bidouille. Limite, elles avaient des fonctions de fraude intégrées et dissimulées dans le truc. Alors d'où la réponse, c'est bon, alors certes, si elles existent, elles s'appuient sur l'attestation, mais elles sont déjà dans l'illégalité parce qu'il est interdit, en fait, le logiciel est de base non conforme. Donc en fait, elles attestent à tort, elles produisent un faux, elles sont déjà dans l'illégalité, en fait, c'est sans doute un problème de contrôle. Il faudrait que l'administration ait les moyens de contrôler. Donc on peine à voir, ça jette. Alors on a eu des premiers contacts, alors on nous assurait qu'effectivement il ne s'agissait pas de jeter le discrédit sur le logiciel de caisse, et je pense qu'on réussira, j'ai pas d'inquiétude sur le fait qu'on réussira à avoir des contacts, et qu'on pourra avancer. Alors jusqu'où on arrivera à trouver des équilibres, ça, c'est les discussions qui vont nous montrer. Sur une note positive, parce que de toute façon, il faut avoir une sorte d'optimisme aussi de forme et de nécessité. Hein. La situation est telle qu'elle est et on va avancer et faire ce qu'il faut. En 2016, il y avait déjà, par une autre loi de finances, une mise à jour, une réforme qui aurait pu, de la manière dont elle était rédigée, interdire les rendre impossible de proposer des logiciels libres de caisse. Parce que ça aurait été impossible de la rendre compatible avec la réforme proposée. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Quoi qu'il en soit, on a contacté, alors l'April avait contacté avec les acteurs concernés, l'administration fiscale. On avait pu, par des échanges, clarifier en fait les jeux de responsabilité. Et ça avait été mis dans cette doctrine fiscale. Donc c'est comment l'administration entend appliquer la loi. Et c'est un document qui est opposable à l'administration, donc il est extrêmement important. Et par des échanges en fait très constructifs, on avait trouvé, voilà, la doctrine fiscale définissait mieux ce qu'était le logiciel libre et intégrait en fait le fonctionnement de le logiciel libre dans sa manière d'appliquer la loi, ce qui a donc rendu en fait le logiciel libre compatible avec le modèle du logiciel libre avec les modèles de logiciel libre plutôt avec compatible avec la loi. Donc on verra comment on peut avancer, parce que la certification pose beaucoup de problèmes, que ce soit en termes de coûts, d'accès aux critères aussi de certification, parce que ça, il faut payer ne serait-ce que pour accéder aux critères qui ne sont pas tous publics. Bon,
ouais. C'est carrément un problème, ça aussi, oui. Le principe des normes ouvertes fermées, en fait. Ouais.
Donc, c'est pas forcément. Moi, je ne suis pas du tout un expert des normes de certification, mais voilà, c'est vrai que c'est un chantier compliqué. Et puis, il ne faut pas oublier, au bout du compte, ce qu'une loi a créé, une autre loi peut le défaire. Donc, il y aura d'autres lois de finances, hein, y en a tous les ans. Donc on pourrait essayer peut-être de proposer les amendements pour revenir sur cette réforme, quoi qu'il en soit, voilà, là il faut être... Je pense qu'on n'aura pas de mal à trouver des interlocuteurs et interlocutrices à l'administration, il faut voir ce qu'il en sortira. Mais,
bon. Et est-ce qu'une exception pour les logiciels libres a été demandée spécifiquement ou pas du tout? Parce que bah, justement, comme disait Pierre, effectivement on peut se dire si il suffit de s'auto-certifier pour faire passer des failles et pouvoir tricher sur la TVA, le fait que ce soit open source apporte en tout cas une certaine transparence en termes de contrôle potentiel, en tout cas, que les autres ne peuvent pas proposer. Et ouais, du coup, est-ce que ce genre de piste a été évoquée?
Je pense qu'on va pouvoir l'évoquer avec l'administration. Alors, quand nous, on a vu arriver pendant les projets de loi de finances cette proposition de réforme, c'est difficile. Enfin, en fait, il vaut mieux, je trouve, stratégiquement, être dans une attitude de « ça pose problème ». Donc, moi, j'ai appelé notamment j'ai contacté des collaborateurs parlementaires, etc., pour leur dire justement, en fait, c'est ce qu'on essaie de communiquer. On a tout intérêt à s'appuyer sur le logiciel libre, qui est plutôt vecteur de sécurité, de transparence. Ça permet un travail d'audit. Ça permet donc un travail d'audit. C'est plus efficace, peut-être, surtout dans un temps très court, d'être dans une démarche. Il vaut mieux rejeter la proposition, la retravailler. Oui. Donc, c'est ce qu'on disait, voilà, vous allez peut-être un peu vite en besogne. Que d'essayer de bricoler des exceptions où on n'aurait pas forcément anticipé tous les effets de bord possibles. Maintenant qu'on en est à une étape où on va essayer d'être dans la dentelle quelque part, je pense que c'est quelque chose qu'on pourra porter pour rappeler à l'administration qu'en fait elle a peut-être tout intérêt à ce que le logiciel libre soit, que les solutions libres soient fortes et bien reconnues, parce que quand elles sont bien installées, en fait, ça devient, c'est le bien commun des personnes qui proposent des solutions dessus. Donc, elles ont intérêt à ce que ce soit des logiciels reconnus, solides, et elles n'ont pas intérêt à ce que les gens viennent faire n'importe quoi avec. Donc, elles vont défendre un petit peu leur, voilà. Donc, je pense que ce sera peut-être une des solutions à entrevoir. Mais moi, je suis persuadé aussi qu'en fait, ce serait dans tout l'intérêt de l'administration fiscale que le logiciel de caisse soit plutôt libre qu'autre chose.
Ça dépend de l'objectif.
Ça dépend de l'objectif.
Si leur intérêt, c'est de rendre service à des copains ou des copines pour s'assurer qu'il n'y a pas de concurrence, non. on ne sait pas quel lobby est intervenu.
Oui, mais parfois, j'essaie d'éviter d'avoir un regard cynique, mais je dis aussi pour l'administration, peut-être qu'il y a certaines personnes qui disent que c'est plus facile s'il reste plus trois logiciels, deux ou trois gros logiciels. Je n'ai plus que deux ou trois à contrôler et à surveiller, alors que si j'ai pléthore de plus petits logiciels, aussi libres soient-ils, c'est peut-être plus compliqué. Je ne sais pas, je pense que ce n'est pas forcément le bon calcul. Après, on peut essayer de deviner beaucoup de choses, c'est pas évident. Ouais.
Ça n'empêchera pas, même dans ta logique, d'avoir un seul grand logiciel libre, tu vois.
En plus.
Même si c'est un peu dommage. Mais...
Oui, ce serait dommage d'avoir une solution. Bon, bref. On passe au sujet suivant.
Oui.
Allons-y. la fameuse clochette du Café Libre. Alors difficile en ce début d'année de faire l'impasse sur ce qui se passe outre-Atlantique, pardon, malheureusement, hein, et notamment l'empressement de certains nombres de GAFAM et consorts de se rallier à un nouveau président élu aux États-Unis, Trump donc. Et à ce sujet, j'ai trouvé cette formulation de Guy Medford dans un édito du Monde Magazine particulièrement juste et drôle, et merci Vincent de l'avoir retrouvé. Alors cette citation est que les dernières semaines auront eu un avantage, nous signaler que la Silicon Valley a tout disrupté, sauf le bon vieux faillotage. Et donc au-delà de la boutade, moi, je trouve que ça interroge quand même sur la dépendance aussi à leurs outils. Hein. Et puis c'est une triste illustration du caractère éminemment politique, hein, et géopolitique même des choix en matière informatique, parce que voilà. Le futur est très incertain, mais ce qu'on sait, c'est que là, aujourd'hui, on dépend quand même beaucoup de l'outil de ces grandes entreprises. Alors, je ne sais pas ce que ça vous évoque, cette situation. Vaste sujet. Pierre, oui ?
Effectivement, moi, j'ai été surpris. Les grands de la tech américaine, donc aussi bien Google, Zuckerberg, Musk, il n'a pas caché sa sympathie pour Trump, mais Zuckerberg avait plutôt une orientation favorable aux démocrates jusque-là. Il a fait complètement la girouette, il a retourné sa veste dans une petite vidéo de 3-4 minutes où il expliquait qu'ils allaient balancer quasiment toute la modération sur Facebook parce qu'il y en avait ras-le-bol des woke, en gros, hein, je caricature à peine. Gates a expliqué à quel point Trump était...
Il a dit qu'il était
impressionné. Donc Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Il y a Marc Andreessen qui était un des fonds de Netscape et qui dirige un très gros fonds américain d'investissement qui s'appelle Andreessen Horowitz. Alors lui, il a des sympathies républicaines depuis un moment, mais il a également dit qu'il trouvait Trump très impressionnant. Donc j'en passe des meilleurs. On sent que c'est pas complètement spontané. Enfin, il y a de l'opportunisme, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi de la peur derrière. Ils ont peur de se faire cogner dessus au premier faux pas. Même le Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui a été violemment critiqué par Trump pendant son premier mandat, même lui, il n'avait pas dit qu'il était totalement d'accord avec Trump, mais il a quand même expliqué lui aussi qu'il était vraiment favorablement impressionné et qu'il allait se passer des choses super. Mmh. Donc voilà, on sent que tout le monde a été mis au pas. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Hein. Donc c'est un peu inquiétant pour la suite. Et même Google, qui était resté assez discret, s'est aligné sur les demandes de Trump de renommer le golfe du Mexique Golfe d'Amérique.
Oui, donc comme ça, t'as signé tout.
Google Maps a été mis à jour il y a quelques jours à peine. Hein. Ça, c'est tout frais. C'était pas le cas dimanche.
Alors, si on est aux États-Unis, qu'on va sur le Google Maps, on voit bien Golfe d'Amérique. Et ce que j'ai cru comprendre, mais j'ai pas encore vérifié, si on le fait depuis l'Europe, il y a écrit Golfe du Mexique, mais entre parenthèses, Golfe d'Amérique, pour nous habituer aussi.
Dans le monde entier, en fait, ça a écrit Golfe d'Amérique entre parenthèses. Alors, il y a d'autres zones sur lesquelles il y a des litiges territoriaux, dans les mers du Japon, comme ça, qui s'appelle également Mer de l'Est pour les Coréens. Il y a le Golfe Persique aussi, qui a un autre nom.
L'image des cartes, parce que je pense à Taïwan, par exemple, etc.
Le Golfe d'Amérique est particulièrement mis en évidence, quand même, plus que les autres. Ça dépend aussi du niveau de zone, c'est assez compliqué. Google essaye d'éviter les coûts, je pense, mais c'est quand même préoccupant.
Il ne faut montrer pas de blanche.
Donc, on peut rappeler qu'il y a une carte libre qui s'appelle OpenStreetMap, le Wikipédia de la cartographie, et qui ne sera pas soumis à ces. Qui est une fondation de droit britannique, je crois, gérée par une fondation de droit britannique, mais avec des contributeurs libres, comme vous et moi. Quoi, voilà. Donc, on a quand même des cartographies indépendantes de ce genre d'influence. Plus indépendantes, en tout cas.
Il y a OpenAI aussi, je crois qu'il sait. En fait, la vraie question que je me pose, c'est qui ne s'est pas rangé derrière Trump ? Quel millionnaire, milliardaire ne l'a pas fait ? Je suis sans voix. Je pense qu'on a pas fini de toucher le fond, mais ça va être compliqué là. Et autre news. Enfin, moi, je l'ai découvert ce matin. Accenture, donc en Europe, éclaboussé et arrête toute politique de diversité et inclusion sous la pression de la Maison Blanche. Moi, je me pose d'autres questions sur... on peut pas dire qu'il est pas efficace, hein, Trump, dans sa vision. Et quelle marge de manœuvre ont ces GAFAM ? Parce que Bezos, Bill Gates, ils n'ont plus rien à prouver. Je veux dire, en termes de... Ils ne sont pas fragiles du tout sur le monopole, les oligopoles qu'ils ont. Et pourtant, ils font de la lèche à mort. Quand on voit que Trump dit, par rapport au soutien vis-à-vis de l'ONU, dit on arrête tout tant qu'on n'a pas vérifié que vous avez enlevé toute mention de diversité, d'inclusion, même sur le soutien, alors c'était quoi ? Sur autre chose, si vous voulez plus qu'on dise le mot femme ou minorité ethnique, En fait, il a une politique de menace, au-delà du fait de se faire couper des soutiens financiers, on va dire, c'est qu'il a un pouvoir de nuisance tellement puissant que, même s'il n'approuve pas du tout, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'il a fait ou dit pour que tout le monde tremble comme ça, enfin, même si je vois très bien pourquoi on ne tremble pas. Et je me dis, bon, quand même, c'est pas tous des. C'est bizarre. Et je me dis, bah, s'ils ne le font pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire qu'avec la force de frappe qu'il a, il peut faire en sorte que Facebook ne soit plus, Instagram ne soit plus, Amazon ne soit plus? Et je commence à me dire, bah, peut-être. Peut-être. Donc ouais, je sais, enfin, je les blâme, oui, mais c'est vrai, je me dis, bon, ouais, vraiment, on est mal. Je sais pas comment vous voyez. Surtout que nous, on a eu l'extrême droite pas si loin, hein, il y a pas longtemps. Oui. Donc, on devra apprendre et commencer à préparer nos.
D'autant qu'ils menacent carrément d'annexer le Groenland, le Canada et le canal de Panama. Oui. Enfin, le Panama tout court, d'ailleurs, je sais même plus. Donc, effectivement, on sait pas ce qu'il peut là. Enfin, jusqu'où il va s'arrêter. C'est très, très inquiétant. Là, il a commencé sur le même modèle. Enfin, Facebook a fait la même. Mark Zuckerberg a fait le même genre de déclaration sur l'inclusivité dans la société.
Quand on voit comment Facebook a été fondé, on est peu surpris, on va dire.
Oui, alors oui, c'est
vrai. Voilà, c'était fondé, de donner des scores aux femmes dans université
Harvard,
américaine, ouais. À Harvard. Voilà.
Ah bah, c'était le premier. Donc, c'était un trombinoscope de femmes. Oui, c'était pour des rencontres.
C'est comme plutôt sûr, oui. En fait, on est assez cohérent avec ce qu'il a dit récemment. Mais oui, non, c'est inquiétant. Moi, je pense qu'il y a aussi, ils voient juste leur intérêt économique, c'est les entreprises, même si on sort toute question même de morale. Leur intérêt économique étant d'aller dans le sens.
Mais je pense qu'il y a eu des menaces assez brutales derrière, hein, de blocage, d'interdictions diverses.
Ouais, il y a son nom, de marché public.
Tu perds.
Mais je pense que l'État américain est sans doute un gros marché, en tout cas. Et sans doute qu'il y a aussi,
Après, Trump est en train de mettre au pas également l'administration. Là, ils ont fermé une administration, l'équivalent de la DGCCRF, mais sur les produits financiers. Ça a été fermé lundi matin. Ils ont dit aux gens, bah, vous rentrez chez vous, le site web a été arrêté. La NSA, ils ont fait le même genre de choses sur les politiques d'inclusion. Ils ont demandé à la NSA, donc l'agence de sécurité informatique américaine, également de renseignement d'ailleurs, de supprimer tous les mots type alors diversité, inclusion, privilège, de tous ces serveurs internes comme externes. Donc privilège en sécurité informatique, c'est un mot technique bien précis. Oui. Donc il y a plein de choses ahurissantes comme ça qui se passent. Et il est également en train de mettre au pas le CNRS américain, la NSF, en disant que aux scientifiques que toutes les demandes de financement incluant les mots climat ou enfin tout ce qui tourne autour de l'écologie, etc., seront refusées. Donc les scientifiques sont en train de recadrer leur demande de financement. Enfin, il est vraiment en train de tout mettre au pas, mais en profondeur. Et donc, au niveau administration, c'est facile pour lui, vu qu'il est le président. Mais au niveau privé, ça risque d'être un peu le même genre de discours. Et là, j'ai entendu juste avant de venir, le vice-président américain est venu donc au sommet sur l'IA et il a fait une déclaration assez martiale, disant qu'il fallait que l'Europe allège. Enfin, que tout le monde, toutes les...
Déjà, on sent qu'ils sont un peu vexés sur la
que Macron essaie de leur piquer la vedette sur l'IA, manifestement. Et ils expliquent en gros que voilà, il va falloir qu'on collabore tous et que l'Europe fasse un petit peu sauter toutes ces règles ennuyeuses comme RGPD, DSA, DMA, etc. Et AI Act.
On est sur un enjeu géopolitique important. Et je voulais avant qu'on avance et qu'on oublie, parce que dans cette logique de modération, effectivement, il y a tout le truc anti-woke, etc., mais on voit qu'il y a aussi finalement ça libère des postures un peu réactionnaires, mais aussi ce qui nous concerne plus directement. Alors il y a une actu qui est passée. Attendez, je charge dans mes notes pour vous la citer bien. Alors on apprend donc dans un article de Milina Lupia publié sur Klubik.com que le 19 janvier 2025, Facebook bloque les publications et les groupes mentionnant Linux. La plateforme considère que ces contenus comme des menaces pour la cybersécurité. Alors ça, c'est vrai que c'est des arguments qu'on avait peut-être l'habitude d'entendre il y a quelques années sur le fait que, pour être sûr, il fallait être dans l'opacité. On pensait que c'était un petit peu révolu, cette époque-là. Ben, en fait, peut-être pas tant que ça. En France, on a, alors bon, on va pas lui donner tant de crédit, une tribune de Luc Ferry, Oui, Luc Ferry, j'avais un doute sur son prénom, mais en tout cas, pareil, il disait que voilà, l'intelligence artificielle open source posait les problèmes de sécurité. Bon, on va pas donner beaucoup de crédit au fond, mais voilà, il y a cette tendance, ça revient, on revient sur ces idées un peu poussiéreuses anti-Linux, alors que on a plutôt l'habitude que maintenant que ce soit un peu rentré dans les mœurs que GNU/Linux était vachement bien. Je sais pas.
Moi, ça me paraît pas si vieux, hein.
Ouais, pareil,
comme penser. Bah sur Parcoursup, qui était censé, enfin, le prédécesseur de Parcoursup, c'était j'ai oublié le nom, avec des lettres, là. Bon.
Mais son post-bac, APB, je crois. Hein.
Oui, voilà, c'est APB, ça, APB. L'un des problèmes d'APB, c'était son opacité, et qu'on comprenait pas l'algorithme, et que c'était très anxiogène pour les élèves. Du coup, on a sorti Parcoursup, qui était censé être ouvert, et ça avait été demandé par une association. Ils ont refusé pour des raisons de sécurité, et ça, c'était il y a vraiment pas si longtemps. Quoi. Mais oui, en fait, ils font ce qu'ils veulent, et ça montre le côté arbitraire. De toute façon, à partir du moment où on suit juste la politique américaine, ça va être compliqué.
Je pense que l'avantage de cette période, c'est que c'est quand même bas les masques.
Oui.
Pierre, tu citais l'exemple de Facebook. Facebook a beaucoup bénéficié de l'aura qu'ils ont eue en 2011 avec les printemps arabes. Où, moi, je me souviens, dans le milieu militant, on était très gênés parce qu'à la fois on était contre Facebook et puis à la fois le rôle de Facebook dans le regroupement des jeunes sur la place Tahrir et tout. Donc, on pouvait pas dire du mal de Facebook. Et bon, bah maintenant, je crois que c'est vraiment terminé. Comme tu dis, c'est un retour aux sources parce que vu l'origine de Facebook et là, au moins, je pense que le roi est nu et on voit ce qui est visible. Par rapport à ce qui se passe avec les entreprises qui vont se plier devant Trump, ça me fait penser au mouvement littéraire dans les années 80-90 en science-fiction, c'était le cyberpunk, et qui imaginait que les États allaient disparaître avec plutôt des méga-corporations. Alors avec les GAFAM, on a cru que c'était ça, et en fait, pas du tout. Les États, ils sont vraiment... Enfin, les États forts sont vraiment, vraiment, vraiment là, et ils sont très puissants. Et en fait, les GAFAM qui font croire qu'ils sont hors sol et tout, ben viennent de montrer qu'ils sont liés aux États-Unis. Enfin, c'est normal, ils sont une entreprise, elle est pas hors sol, et donc eux sont liés aux États-Unis. Donc ils sont une entreprise et donc ils sont liés à l'État du gouvernement des États-Unis.
C'est très juste. Et je pense qu'et Pierre, tu évoquais le fait que le vice-président américain J.D. Vance inviter l'Europe à y aller un petit peu mollo sur la régulation. En fait, donc c'est des enjeux géopolitiques et toutes ces entreprises ont tout intérêt à avoir la force diplomatique et la puissance géopolitique de leur pays pour essayer, dans la compétition économique qui l'oppose au marché européen, à avoir cet appui-là pour essayer d'obtenir des réglementations, de s'assurer une réglementation qui soit un peu plus intéressante, on va dire, pour leur intérêt économique. Ouais. Je vous propose d'avancer au sujet suivant, en fait, qui est tout à fait lié. On a commencé même à l'évoquer. Alors, on part de l'État fort. Moi, je vais parler de Musk, d'Elon Musk et sa commission Doge. Et j'ai oublié de noter ce que décrit l'acronyme, c'est pas grave. Et qui s'empare d'un certain nombre de SI critiques. Alors, Musk, il est là, normalement, pour détricoter l'État. Et en fait, bah, peut-être pas tant que ça, ou alors de le réorienter d'une certaine manière. Alors vous le savez sûrement, voilà, donc Elon Musk était propriétaire de la plateforme Twitter qu'il a rebaptisé X, et puis c'est une figure centrale de la campagne de Trump et maintenant de son équipe gouvernementale, et donc il est chargé avec cette commission Doge de travailler à l'efficacité gouvernementale. Bon, en gros, il est là pour casser le cost killer, pour casser les coûts. Et les équipes du Doge d'Elon Musk s'emparent des systèmes d'information de l'État américain, titré notamment Martin Clavet dans Next le 3 février dernier. Donc en gros, des équipes très réduites, souvent composées de très jeunes hommes, c'était pas facile à dire, de très jeunes hommes, un peu aussi, qui de ce qu'on comprend, qui sont plutôt des fans de cette idéologie muskienne, débarquaient un petit peu, voilà, dans un certain nombre d'agences gouvernementales pour mettre la main basse sur les systèmes d'information. On peut citer par exemple l'Office of Personnel Management. En gros, c'est l'agence des ressources humaines employées des États pour les employés des fédéraux américains. En gros, qui gère donc la paye des fonctionnaires. Donc un point très très. Voilà l'enjeu stratégique de ce genre d'administration. Ils ont fait ça dans plusieurs agences. Alors ça, c'était vraiment assez terrifiant en réalité, la manière dont ça a pu se passer. Mais on voit, il y a aussi eu des résistances, notamment des référés judiciaires de certains syndicats, des juges fédéraux qui ont limité ces accès-là et qui ont obtenu de l'administration qu'elle aille un peu plus calme. Mais bon, ça fait 3 semaines que ça a commencé, donc on va voir aussi combien de temps, quels équilibres vont être trouvés là-dedans. Moi, ce que je trouvais, et voilà, je voulais en discuter aussi avec vous, ça montre aussi peut-être dans des États qui se veulent démocratiques, déjà le rôle crucial en fait qu'occupent les systèmes d'information, la notion aussi de qui a accès à ces systèmes d'information, et puis les contre-pouvoirs très, très instituels comme la justice qui va gérer ça, et puis les contre-pouvoirs comme les syndicats qui vont pouvoir aussi résister à ça. D'un point de vue, voilà, déjà, nous, en tant que libristes, de voir à quel point ces systèmes d'information sont des enjeux quand même hyper importants dans une démocratie, je pense que ça semble une inquiétante révélation, quelque part.
Inutile de dire que là-bas, le RGPD, déjà, n'a pas cours, mais alors là, on en est très, très loin, parce qu'effectivement, ils ont pompé un maximum d'informations. Vu le manque d'éthique, l'absence de limites, même, on va dire, de ces gens-là, on peut être très préoccupé sur ce qu'ils peuvent en faire.
Se pose aussi la question de... Effectivement, des juges sont intervenus. Alors, du coup, j'ai pas eu le temps de vérifier la source, mais j'avais vu passer une news où, justement, un des juges, c'était pas du tout dans cette affaire, mais qu'en gros, aux États-Unis, vraiment, c'était sur un réseau social, donc ça n'a aucune valeur, qu'on commençait à un peu menacer la démocratie dans la mesure où ils mettaient des bâtons dans les roues pour l'application des jugements. Donc même sur ça, ce contre-pouvoir, c'est quand le président et son gouvernement s'entourent en plus de personnes aussi imprévisibles et lui prêtant allégeance, quels sont les réels pouvoirs de ces contre-pouvoirs ? Je ne sais pas.
D'ailleurs, dans le style, il y a eu un gag au FBI. Il y a eu une erreur d'orthographe sur la nomination du nouveau directeur. Donc il y a quelqu'un d'autre qui a été nommé. Enfin, je pense que ça va vite être rectifié. Oui. Mais l'intention de Trump, c'était de licencier tous les agents du FBI qui enquêtent sur l'épisode du coup d'État raté du 6 janvier 2020 ou 21. Donc évidemment, c'est une affaire qui l'arrange pas du tout. Mais donc il essaye de faire carrément supprimer l'enquête en fait en licenciant les gens. Hein. C'est vraiment, il n'hésite pas à intervenir, il se cache même pas en fait. C'est assez ahurissant, méthode totalement éhontée en fait, décomplexée.
Et pour moi, il a déjà purgé hein, sur ça. Enfin, il me semble que c'était le deuxième jour déjà qu'il avait toutes les personnes qui avaient enquêté dessus. Et je me rappelle quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Zuckerberg, pour le coup, enfin Facebook était un des premiers réseaux sociaux suite à l'attentat du Capitole, a coupé les accès de Twitter, du réseau social de Trump. Et là, en dédommagement, il lui a donné, donc Zuckerberg a donné 25 millions de dollars en dommages et intérêts à leur cher président. Et c'est là où on voit à quel point c'est facile de voir tous les... moi, je suis très, très troublée hein, par cette période en me disant « mais c'est fou ». Donc les personnes qui ont tenu tête, non seulement retournent leur veste, mais en plus se mettent complètement à plat ventre en disant « ah ben, on s'est trompé, quoi ».
Oui, non, moi je suis abasourdi aussi, hein, c'est pas bien côté.
Oui, après, il y a une culture des États-Unis particulière, il n'y a pas le statut de fonctionnaire comme on a en France, dont on se moque, mais qui a ses avantages, dans le sens où on ne peut pas révoquer comme ça un fonctionnaire immédiatement. Il y a quand même la tradition que c'est au vainqueur les dépouilles, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est. Mais avant, ça se faisait dans un cadre culturel qui faisait qu'il y avait un équilibre des pouvoirs, mais là, effectivement, on voit le cas d'une constitution qui est détournée. Alors, pour revenir à Musk, pour l'instant, il a quand même attaqué l'USAID, donc le développement. Moi, je veux voir ce que ça va donner le jour où il va s'attaquer au Pentagone. Je crois que, pour revenir à ce qu'on disait sur les États forts, je ne crois pas que Musk ira très, 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 très loin. Parce que, il y a quand même, je fais une référence historique, mais en 1961, Eisenhower, dans son discours de clôture, avait dénoncé les risques qui pesaient le complexe militaro-industriel. Donc ça date d'il y a très longtemps et il est plus que puissant aujourd'hui. Donc Musk, s'il s'attaque à ça, je ne sais pas ce que ça va donner pour lui.
Oui, non mais je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes et dans tous les sens. Oui, il faut pas. L'USAID, c'est l'aide au développement international.
Au développement, donc ça c'est facile.
Il avait clôturé le site du jour au lendemain et je crois que ça fait partie de ces choses qu'un juge fédéral a dit attention. Il avait licencié, mais ça a ramené. J'ai noté, il voulait passer 10 000 salariés à seulement 300, donc c'est une purge.
Concernant l'USAID, il y a quand même, c'est aussi un outil d'influence de soft power aussi, donc c'est peut-être un mal pour un bien, entre guillemets, parce qu'il finançait un certain nombre de journaux européens, en fait, plus ou moins directement.
D'accord,
ils avaient un budget de 800 000 euros pour l'AFP, enfin 800 000 dollars. dont on ne sait pas trop. Enfin, a priori, ce sont plutôt des abonnements à des services de l'AFP. C'est pas une subvention, mais il y a quand même de l'argent qui circulait, disons, entre l'USAID qu'on peut considérer comme du soft power vers un certain nombre de journaux de presse, enfin de presse européens, en fait, oui.
D'accord. Bon.
Mais il y avait d'autres sites. Moi, j'ai pas trop compris pourquoi. Enfin, sur l'USAID qui l'a fermé, il y a foreignassistance.gov aussi.
Oui, il y avait toute une liste.
Neglected diseases, donc. Et les Children in Adversity. Donc, je dis, mais du coup, il est contre tous les gens qui ont des maladies, des enfants. Enfin, vraiment, je comprends même
là,
pas sa ligne.
Que, oui, non, mais tout ce qui est humanitaire, c'est pas son trip, clairement. Oui,
on ne sait pas quelle est la logique, si ce n'est peut-être qu'ils sont des influences mines qui ne sont pas capables de se défendre face à ce genre d'attaque. Alors, effectivement, le complexe industrio-militaire, je pense qu'il ira peut-être un petit peu moins la fleur au fusil pour essayer de s'y attaquer. Et peut-être que ce n'est pas dans son intérêt, mais ouais.
Oui, là, c'est des soutiens d'organisations hors des frontières des États-Unis. Il leur dit, en fait.
Je crois que c'est à l'international.
L'aide, c'est assez international. Ils réduisent effectivement l'aide internationale parce qu'ils considèrent que ça ne rapporte rien aux États-Unis.
Je vois l'heure qui avance et puis il y avait un sujet que tu voulais évoquer et je pense que c'est bien de l'évoquer parce que c'est aussi une forme de contre-pouvoir. On a parlé de X et donc il y avait une initiative alors qui avait été évoquée par nos camarades lors de la précédente, précédente au Café Libre. Donc il y a l'initiative Hello Kit X. Donc l'objet, c'était d'appeler à quitter la plateforme X et notamment. Et on va surtout parler de ça pour migrer vers le fait divers, donc vers Mastodon. Donc Mastodon qui est une forme aussi donc, du contre-pouvoir. Et donc tu voulais nous parler, je crois que ça avance du coup. Cette
initiative. Parce que la phase 2 a commencé. Donc vous ne le savez pas parce que vous êtes très pur. mais du coup la phase 2 a commencé dans le sens où les transferts, enfin comment dire, normalement on s'inscrit sur la plateforme et du coup les données sont collectées. Et plus il y a de monde, plus ils arrivent à faire des liens entre les comptes X et les comptes du fait divers et aussi Blue Sky. Mais il se passait rien depuis des semaines, en fait. C'était que de la collecte. Et là, la phase 2 a ouvert dans le sens où si on se reconnecte, maintenant, on se retrouve réellement connecté aux personnes d'avant, quoi. C'est pas incroyable hein, comme effet encore. Je pense qu'il manque encore beaucoup de monde. Mais si vous l'avez pas fait, n'hésitez pas à le faire et surtout, parlez-en à votre entourage, probablement moins pur, pour être sûr qu'il y ait de plus en plus de monde sur ces alternatives. Moi, je l'ai senti quand même, même si c'est pas foufou.
Qui hoche la tête en régie.
Quelle proportion à peu près de gens que tu suivais t'as pu récupérer
Alors j'ai eu 45.
Ah oui, quand même, d'accord.
Ouais, sur 900.
Mais c'est pas si mal, oui, d'accord.
Non, mais c'est pas si mal, c'est plus que zéro, hein, ou que mon petit doigt qui clique sans trouver les personnes.
Parce que c'est tout l'enjeu pour les personnes qui sont moins sur les réseaux sociaux. On se construit ce qu'on appelle une timeline, une frise chronologique, et pas que chronologique, mais de gens qu'on suit qui vont façonner notre rapport au réseau social. C'est vrai que quand on va vers un autre, il faut reconstruire. Donc là, l'idée, effectivement, si on peut tout de suite facilement retrouver les personnes qu'on suivait déjà de base sur Twitter et les retrouver notamment sur Mastodon, ça participe, ça facilite cet effort de transition vers un autre, vers un autre réseau.
J'ai essayé de me connecter, mais le truc qui m'a un peu perturbé, c'est qu'il faut donner accès à son compte Twitter, en fait, et c'était pas du tout... C'était pas très clair à quoi on donnait accès, et ce
Je me suis fait la même réflexion.
Je suis le genre de personne casse-pied qui lit les conditions d'utilisation. J'ai préféré m'arrêter là pour l'instant.
Il y a l'air d'avoir des gens sérieux derrière et des
CRNS, ça va, mais bon, on ne sait pas.
Non, mais en plus, la plateforme est en logiciel libre, elle est diffusée en source.
Oui, c'est open source.
Me semble-t-il. Hein, donc complètement. On peut aller voir soi-même. J'ai juste eu la flemme d'aller voir derrière ce qu'il y avait. Mais,
une spécificité de cet outil par rapport à d'autres, parce que du coup, moi qui ai essayé de migrer plusieurs fois et gagnant mes followers un par un sur Masto. Beaucoup avaient fermé, en fait. Donc, ça ne marchait plus, la migration. Et là, c'est quelque chose qui se fait au fil de l'eau. Si on se log une fois, on peut cocher une case. Et bon, après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Mais on n'a pas besoin de régulièrement refaire une mise à jour. Ouais, ça synchronise aussi à posteriori.
Je vois le temps qui file. Alors, on va faire une pause musicale. Avant, je vais quand même, pour les personnes qui n'ont pas encore un compte sur Mastodon et qui souhaitent se lancer dans cette aventure-là, je pense qu'il faut expérimenter. Ça ne coûte pas grand-chose. Alors, il y a plein d'instances différentes. On a une émission, je mettrai le lien, qui parle de Mastodon si vous voulez aussi comprendre mieux comment ça fonctionne. Vous allez sur pouet.chapril.org. Pareil, je mettrai la référence. C'est l'instance pour porter par le Chapril qui fait partie de l'April. qui vous permet de vous créer une instance. Voilà, si vous ne savez pas par où passer, c'est une des solutions qui s'offre à vous. Et vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre sur Mastodon via ce canal. Donc, je vous disais une pause musicale. On a parlé de sujets un peu durs. Pour se détendre, voilà, on va écouter un peu de banjo féministe punk tendance antifasciste. Ça va nous faire du bien. Nous allons écouter donc The Hunt par System Failure. On se retrouve juste après sur Cause Commune.
Cause Commune
93.1.
Nous venons d'écouter The Hunt par System Failure, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. C'est Sebaïssa.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Vous êtes toujours au Café Libre, je suis Étienne Gonu de l'April et avec Vincent Calame, Florence Chabanois et Pierre Bessac, nous discutons de l'actualité autour du logiciel libre et des libertés informatiques. Alors avant la pause, on évoquait la situation américaine, les questions géopolitiques on va dire autour des technologies informatiques. Et on va pas tant s'en éloigner avec le sujet suivant. On va revenir sur un sujet qui est quand même très récurrent depuis quelques semaines, voire quelques mois, hein, l'IA. Et pour cause, là, le 10 et 11 février, en fait, ça a commencé même le 6 dans les éléments de préambule. Bref, le 10 et 11 février, la France organise un sommet mondial sur l'intelligence artificielle où vous se retrouvez, voilà, des chefs d'État, J.D. Vance, donc le vice-président américain, il y était également, beaucoup de grands noms, voilà, de grands responsables, de chefs d'entreprise, les grandes, voilà, étaient présents. Et l'objectif affiché par l'Élysée qui pilote l'événement, c'est de sortir de la dépendance de la Chine et des États-Unis. Ah, nous explique donc Rosamélie Bessel pour Public Sénat. Ça veut parler, alors je crois que c'est Emmanuel Macron qui parlait de remettre l'intelligence artificielle au service de l'intérêt général. Bon, définir ce que ça veut dire exactement, mais en tout cas, voilà, c'était l'ambition affichée. Donc voilà, l'IA encore et toujours, on y revient. On a déjà parlé, il y a beaucoup de manières d'aborder la question. Quand je vois ça, je dis, est-ce que c'est un vrai sujet politique ou est-ce que c'est encore un marketing technosolutionniste? Parce que, alors c'est l'intérêt, je trouve ce sommet, on a du coup plein de personnes qui profitent un petit peu de ce moment pour publier des tribunes, des positions. On voit qu'il y a des solutions d'IA qui sont proposées voilà, à l'école, qui sont proposées chez France Travail, qui sont... Voilà, il y a pas mal d'actualités quand même autour de l'IA. Donc, il y a beaucoup à dire. Donc, je ne sais pas s'il y a des angles en particulier qui ont pu vous intéresser les uns ou les unes. Qui se lance ? Là, je vous la porte, je prends une porte sans... Voilà.
Ouais, je crois juste qu'on n'est pas prêt d'arrêter d'en parler.
Oui, ben, c'est sûr.
c'est vraiment, vraiment, vraiment un point très important. Il y a un truc qui on parle pas beaucoup, enfin on parle un petit peu, mais c'est la question tous les problèmes de sécurité que ça va poser. Alors c'est vrai qu'on pose la question, est-ce que c'est une bulle? Bon, je pense pas que ce soit une bulle parce que c'est il y a des changements profonds, mais tout ce qui est autour, qu'est-ce que ça veut dire de une fois qu'une IA met en place, quand on voit les dans le système informatique actuel, déjà toutes les possibilités de piratage, qu'est-ce que ça va être plus dans le futur, des IA piratées, c'est-à-dire, ça peut en plus des piratages très subtils, parce que si vous attaquez un concurrent, vous piratez son IA pour qu'elle ait des réponses à moitié fausses, par exemple. On peut imaginer un nombre de choses énormes, et je trouve ça, c'est un peu... j'ai vu récemment un article dessus, mais c'est un peu un aspect un peu ignoré sur les questions de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des IA qui se baladent et qui sont auto... qui fonctionne spontanément, et évidemment on se pose le problème des armes où là le dernier type du monde c'était l'IA et le secteur militaire qui sont en train de faire un mariage qui va être très prolifique malheureusement, et là se posait la question aussi de la sécurité quand il y a des armes qui vont décider d'elles-mêmes. Là il y a beaucoup de freins éthiques qui sont en train de s'effondrer en ce moment. Il y avait l'idée avant que c'était un opérateur humain qui devait toujours agir en finale, et là c'est en train de disparaître très rapidement, et c'est normal que ça nous inquiète, je pense.
Alors, oui, on peut pas l'ignorer, c'est pour ça qu'on en parle aussi. C'est pas juste un truc de marketing, il y a des vraies questions qui se posent, et notamment celle que tu évoques, Pierre.
Il y a quand même des dispositions dans les AI Act européens pour éviter que des IA dans des secteurs très dangereux, stratégiques, armement, etc., ou sécurité, police, etc., soient utilisées n'importe comment. Ce qui est marrant, donc, et aussi dangereux avec les IA, c'est qu'on peut les baratiner comme des humains, en fait, oui. Donc, ce qu'on fait en sécurité informatique, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale pour piquer le code de la carte bancaire ou le mot de passe de quelqu'un en lui racontant des cracks au téléphone, le coup de la fausse agence bancaire qui appelle, etc., on peut pratiquement le faire avec des IA aussi, en essayant d'extraire soit les informations du concurrent, soit des choses que l'IA n'est pas censée dire. Il y a tout un tas de jeux avec les prompts pour récupérer un peu les informations sur ce que l'IA sait mais n'est pas censée dire. Par exemple, j'ai vu passer un truc totalement anodin sur l'IA Mistral. Il est possible de voir que Mistral lui instruit en lui disant dans quel pays on se trouve lorsqu'on commence une session, lui explique un petit peu comment elle doit répondre, etc., lui donne des instructions. Donc rien de très méchant.
Tu précises que Mistral, je crois que c'est une IA française.
Alors Mistral, oui, c'est une IA française. C'est là le champion français de l'IA, entre guillemets. Enfin, un champion parmi d'autres, mais celui qui est très mis en avant en ce moment parce qu'ils ont fait... des IA open source de bonne qualité qui sont plus conformes avec nos habitudes européennes, disons, et ils ont fait une petite application qui s'appelle Le Chat, qui marche pas mal en fait, ça marche à peu près aussi bien que ChatGPT. Donc voilà, c'est pas parfait hein, tout ça, mais ça montre une voie européenne, disons, face aux voies américaines habituelles, qui montrent qu'on arrive quand même à faire des choses. Voilà, c'est
Après, je précise que Mistral est quand même financé aussi par des Américains.
En partie, oui, il y a des
du coup,
de Microsoft.
Ouais. Bon, oui, ils savent assurer leur survie, on va dire, pour avoir l'influence sur nos territoires démocratiques. Et non, j'ai oublié ce que je voulais dire. Pardon, je suis fatiguée aujourd'hui.
Pendant que tu cherches, je peux juste ajouter quelque chose. Effectivement, les plateformes américaines disposent de la visibilité, donc ils ont conclu un deal avec Microsoft pour être visibles et achetables sur les plateformes Microsoft. Donc je sais pas trop comment ça se passe derrière, mais ça leur donne une visibilité, un accès plus facile aux clients des services Microsoft. Donc effectivement, c'est à double tranchant, ça c'est clair.
Je me rappelle ce que je voulais dire. C'est parce que tu parlais du chat, le côté français et open source. Il y avait Lucie aussi qui était sortie, qui avait fait pas mal de bruit, à qui on pouvait demander comment exterminer les juifs et qui nous répondait très probablement comment faire. Tu parlais de piratage, Vincent. Et en fait, même sans pirater, sans problématique de sécurité, de par la nature, de comment ça se construit, Donc sur les données qui sont dispo et comment s'alimenter, il suffit de juste s'alimenter de fake news pour que ça devienne réel. Et je trouve que la vraie différence entre une décision humaine, c'est que l'humain, on a pas confiance. Oui. Alors que l'IA, on se dit « Ah, mais c'est la machine qui l'a dit ». Et plus les gens grandissent, enfin évoluent avec ça et s'habituent et font... Encore s'il y a une experte ou un expert derrière qui a cette prudence en disant « Bah, c'est un outil ». Et clairement, ça permet des avancées de dingue en matière de santé, de plein de choses. Mais les personnes qui l'utilisent sont en mesure de dire « Ok, ça m'aide, ça accélère un travail que je sais faire par ailleurs et ça me fait gagner du temps ». C'est très différent de quelqu'un qui va prendre des décisions importantes en ayant dessus une confiance totale, quoi.
Oui. Comme je suis un peu un pêcheur de tourner en rond, j'ai tendance à demander aux gens, quand ils me sortent quelque chose de difficile à croire, quelle est leur source. Mmh. Et ça fait deux fois ces deux derniers jours où on me donne comme source ChatGPT, qui disait des conneries en fait. Donc il ne faut pas utiliser, c'est même pire qu'un moteur de recherche web, parce que moteur de recherche web, on a un document qui peut être de référence, pas forcément. Mais là, il y a des gens qui s'en servent directement, alors que le truc peut leur raconter absolument des craques complètes. Des gens qui s'en servent comme source de confiance, et ça, il faut avertir les gens que c'est faut éviter absolument. Enfin, c'est pas du tout une source de confiance.
Ouais, mais moi aussi, ouais. Mais ça montre où on en est aujourd'hui. Les gens ont vraiment vachement confiance.
Et pour rebondir sur ce que tu disais, Florence, l'IA a déjà un prix Nobel, puisque le prix Nobel de chimie a été attribué, notamment un des récipiendaires était travaillé chez Google, et c'est pour une IA pour deviner des structures de protéines. Donc on voit bien que dans des contextes où c'est des experts, dans un but particulier, on comprend tout à fait l'apport que peut avoir l'IA, et on n'est pas du tout dans le côté gadget de là-dessus. En plus, l'IA couvre vraiment des choses tellement différentes. On n'a pas de problème pour trouver des domaines où l'IA a un apport positif. C'est un peu ce côté où c'est censé, quand on dit c'est la nouvelle électricité du siècle, c'est... on a quelques questions à se poser. On a l'impression que tout le monde a envie d'y être parce que tout le monde a peur de rater le coche. Mais
on sent une urgence. On sent que l'urgence, elle aussi, c'est pour ça que je crois que c'est un peu l'idée de ce sommet. C'est géopolitique. Il faut qu'on soit le cœur, un petit peu le cœur battant de cette future révolution, et on en oublie de se poser les bonnes questions. Ça rend aussi difficile de discerner les usages pertinents, et puis c'est toujours la question de qui décide quels sont les usages. Alors on voit bien en termes de médecine, en termes d'accessibilité, il y a plein d'usages qui peuvent être potentiellement hyper intéressants et dans le sens de l'intérêt général, pour reciter Emmanuel Macron, mais qui décide dans quelle mesure, et on n'a pas tellement l'impression que c'est cette direction que prend, notamment les IA génératives. Les usages vraiment bénéfiques par rapport au coût de production, là, voilà, parce qu'il y a toute la production de comment on produit de l'IA, et les coûts environnementaux ou les coûts sociaux qui sont attachés sont aussi posent de grosses questions. Je pense que c'est un cœur d'une tribune du manifeste Hiatus, voilà, notamment de nos amis de la Quadrature du Net. Voilà, donc ça aussi, c'est des grosses questions. C'est comment on produit l'IA, quel poids ça pèse aussi dans nos démocraties, puis qui décide en fait derrière. Et puis ça, dans le contexte notamment américain qu'on évoquait,
Je trouve que c'est une bonne occasion pour promouvoir le libre, justement, parce que ça permet de le faire, de l'auto-héberger, de le faire tourner sur ses propres moyens, si on en a besoin. Donc pour des raisons de confidentialité, ça peut être une bonne chose. Et puis ça permet de savoir un peu quels sont les impacts, quelles sont les consommations, quelles sont les données qu'on utilise. Donc ça donne de la transparence, en fait, par rapport à une IA qui tournerait sur un serveur à l'autre bout du monde, ou chez une entité privée qui ne donnerait pas d'informations. Puisque c'est considéré stratégique, il y a beaucoup de rétention d'informations sur ce qui se passe derrière. Mais c'est à mon avis, c'est un peu ça aussi qui me... J'ai lu le manifeste de Hiatus, je trouve que ça fait un peu... Enfin, ça fait complètement même l'impasse sur la voie du libre pour justement essayer d'encadrer tout ça et de mieux le comprendre et de nous aider même à nous l'approprier, de ne pas être juste spectateur du truc et d'en être nous-mêmes acteurs et de nous approprier aussi bien en usage qu'en fonctionnement, en fait, ces technologies.
Bah, ils parlent quand même, ils exigent une maîtrise démocratique de la technologie, donc c'est pas... Mais j'entends ce que tu dis, mais moi je me retrouve dans cette idée qu'il faut en fait remettre le processus démocratique dans les décisions afférentes aux choix technologiques. Et je pense que c'est ça. Après, voilà, je pense que le cœur est assez critique.
Là-dessus, hein. Je suis tout à fait... Ouais. Oui, y a pas de...
Je me permets juste de rebondir, tu parles du libre, une impression personnelle, c'est il y a vraiment, je pense, effectivement un gros changement de paradigme avec l'IA, parce qu'avant, avant le logiciel, c'était un peu sous deux formes, le code source et la compilation. Et là, on introduit une autre phase qui est l'apprentissage. Et je pense qu'il y a vraiment un changement, même dans nos manières d'appréhender l'informatique. C'est un peu, j'avais une image, c'est un peu comme si on entend en physique, on dit il y a deux états, il y a le solide, l'état solide, l'état liquide, puis hop, on découvre qu'il y a un troisième état, l'état où la matière peut être à l'état gazeux. Et ça pose pour moi, même en tant que professionnel, enfin, informaticien, ça pose de vraies questions. Qu'est-ce que c'est un logiciel maintenant? C'est à la fois le code source, à la fois la compilation, mais c'est aussi toute la phase d'apprentissage. Et par exemple, pour un service libre ouvert, il y a l'idée que du jour au lendemain, je peux récupérer mes données et l'auto-héberger, par exemple. Mais si le logiciel que j'utilise a eu toute une phase d'apprentissage, et que c'est grâce à cette phase d'apprentissage qui m'était utile, quand je l'auto-héberge, je perds toute cette phase d'apprentissage. J'ai beau avoir le code source, j'ai beau avoir le code compilé, je n'ai pas cette phase d'apprentissage, et donc je n'ai plus cette possibilité de... Je ne reproduis plus sur mon poste.
C'est pas complètement conforme à la philosophie du livre qui est de dire on peut modifier on peut améliorer le modèle, on peut un peu l'améliorer, mais on peut pas.
Oui, j'ai pas les données.
Effectivement, ouais, tu n'as pas.
J'ai pas tout l'historique.
D'avoir des corpus d'apprentissage également libres.
Et je crois que on sait l'OSI, qui est l'Open Source Initiative, travaille. Ils ont pas encore abouti à une. Ils cherchent à obtenir une forme de définition de ce que serait une IA. Open source, une IA libre, et je sais que la question de l'accès aux données, de ces données d'entraînement est assez centrale à la question, puis la capacité la transparence et la reproductibilité, en fait, d'être capable, à partir des mêmes données, de reproduire le même apprentissage, voilà. Mais qu'est-ce que ça suppose, etc.
Excuse-moi, je connais pas assez, mais je suis même pas sûr qu'avec les mêmes données, on obtient les mêmes
résultats.
D'accord,
et ça, c'est sans doute pas dit, moi, j'ai pas la
maîtrise technique. Parce qu'il y a sans doute une part d'aléatoire, je sais pas comment raisonnent les spécialistes qui vont nous en parler, mais je suis en fait, c'est au précédent café Libre à vous, Dee avait dit, on a l'habitude que le logiciel soit déterministe, c'est-à-dire qu'on on fait les mêmes actions, on arrive à la même chose. Et en fait, avec l'IA, on a plus ça.
Et on perd un peu la qualité de la liberté d'usage, en fait.
Je pense qu'il y a une révolution assez profonde. On se rend pas compte. Au-delà, il y a tout un barnum un peu ridicule, mais il y a quand même effectivement des changements profonds, même dans la façon d'appréhender l'informatique.
Après, même avant d'aller sur de l'IA générative, où effectivement, c'est encore plus, encore moins déterministe. Qu'avant, pour plein de raisons, sur tout ce qui est data science ou les modèles de machine learning, ça a toujours été un sujet à l'interprétabilité des données, de ces modèles-là, en se disant, on a ça et tel résultat, quel facteur a joué pour arriver à cette décision, c'est pas du tout évident. Donc même le sujet de transparence, tout ce qu'on pourra dire, c'est, en données d'entrée, il y avait ça, et en sortie, il y a ça, mais qu'est-ce qui a influencé telle décision, aujourd'hui, pour moi, on n'a pas la réponse.
Et est-ce qu'on arrivera en fait à être compatible? Quel équilibre on va trouver par rapport à ce qu'on défend nous en tant que libristes d'éthique avec les libertés d'usage et d'accès notamment? Je pense que c'est des questions profondes. Alors je sais qu'à l'April, on va bientôt. Si vous êtes même pas forcément que à l'April, mais si vous suivez les listes, je pense qu'on va commencer. On va commencer à travailler sur le sujet. Donc vous pourrez bien sûr nous rejoindre. Toutes les lumières seraient les bienvenues parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup à défaire, il y a des tricotés. Et c'est pas des sujets simples à faire parce qu'on est dans une urgence un petit peu, on est poussé par une urgence qui en fait, mais c'est des sujets qui nécessitent du temps, une vraie réflexion. Ouais. Un dernier mot peut-être sur le sujet avant que, parce que je vois que le temps avance.
Les sujets que tu as indiqués là, c'est un vrai sujet de recherche aujourd'hui scientifique, essayer de comprendre comment les IA marchent en fait. On sait que ça marche dans certaines conditions et essayer de mieux comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur en fait.
Exactement. Je vais mentionner parce que c'est une association européenne très importante qui est l'EDRI qui a fait une lettre ouverte que je trouve intéressante. Alors, ça rebondit plus sur des points qu'on a discuté plus tôt, mais qui appelle l'Union européenne à résister un petit peu à l'influence des GAFAM, pour ne citer que parce que on voit bien que les grandes entreprises tech cherchent à détricoter et à affaiblir les législations européennes. Et c'est pour encourager effectivement l'EDRI, nos amis d'EDRI, dans cette résistance. Voilà. Un dernier petit sujet, peut-être un peu léger, mais que je voulais quand même à souligner. Voilà, il y a un fonds qui s'appelle le Free Open Source Sustainability Fund, en gros qui finance la pérennité de certains logiciels libres. Et ils ont octroyé au magasin libre d'application F-Droid la somme de 400 000 $400 000. Enfin, moi, c'est l'occasion, je trouve, de féliciter et dire bravo à F-Droid. C'est un projet hyper important. Est-ce que l'un ou l'une de vous veut rappeler en quelques mots ce qu'est F-Droid ?
Si, je sais pas. Florence, si tu veux, non ?
Mmh. Allez, je veux dire comme ça, on dirait si c'est vous. C'est un magasin d'applications libres.
C'est voilà. Ça. Oui, c'est l'équivalent de Google Play, mais version libre où c'est beaucoup plus ouvert.
On peut trouver toutes sortes d'applications, voilà. Et notamment des applications. Ce but d'ailleurs, trouver des logiciels libres, la licence étant systématiquement précisée. Il y a pas. Moi, je suis pas technicien. J'ai vraiment pas de difficulté. J'ai trouvé sur Internet comment installer. Je l'ai fait tout seul. C'était assez simple à faire. Je pense que c'est une démarche, voilà. Si vous voulez commencer à libérer, si vous avez un téléphone sous Android et que vous voulez commencer à libérer un petit peu votre téléphone, votre ordiphone, c'est une démarche qui est accessible, qui permet de commencer à libérer. Je pense que c'est un projet hyper important, hein, parce que c'est.
Ouais. Tout à fait, oui. Par exemple, on y trouve des applications qu'on ne trouvera jamais chez Google Play. C'est des applications qui permettent d'écouter YouTube en n'écoutant que l'audio et sans avoir l'application en premier plan sur le téléphone. Donc, ça permet d'écouter une vidéo YouTube alors qu'on est en train de courir ou qu'on fait autre chose sur le téléphone. Avec YouTube, ce n'est pas possible.
Et ben voilà, il y a sans une application.
Exemple
voilà.
Parmi d'autres.
Et si vous avez besoin, vous pouvez nous écrire et Pierre vous trouvera la référence exacte en lui.
Ouais, c'est LibreTube et il y en a une qui s'appelle LibreTube sur F-Droid et une autre dont j'oublie le nom. Voilà.
C'est la force de logiciel libre. Voilà. Ça permet des usages aussi qui échappent aux logiques de marché mais qui sont pourtant des usages réels.
Par rapport à la difficulté que tu disais, la non-difficulté d'installer F-Droid, c'est aussi sur le store de Google en réalité.
D'accord.
Donc, personne n'est dépaysé et une fois qu'on passe par cette porte, on peut l'utiliser comme Google Play.
Merci de cette précision. Un dernier mot, une dernière actu en une minute que vous vouliez évoquer, qu'on n'a pas évoqué. S'il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci à Florence Chabanois, Vincent Calam et Pierre Bessac d'avoir passé ce temps avec nous pour discuter des actus brûlantes du logiciel libre et puis d'informatique en général.